Point Max.
Oh que oui, 11h03, bienvenue ou re-bienvenue dans le Point de Max à Boulevard 102.1. 21 degrés à Québec, 26 au ressenti. On pourrait encore gagner quelques petits degrés aujourd'hui, mais généralement, on va pas mal rester dans ces eaux-là. Parlant d'eau, ça se peut qu'on en ait un petit peu sa tête dans les prochaines heures. C'est un 40% de possibilité d'averse. Demain jeudi, 22 degrés, 60% de possibilité d'averse, mais de ce que je comprends, c'est plus en matinée que ça va se passer. Puis après ça, quel beau week-end qui s'en vient. Vendredi, 23 degrés ensoleillés. Samedi, 24 degrés ensoleillés. Dimanche, 22. Bon, nuageux, mais au moins pas de pluie. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Sur la route, ça va bien partout, sauf à la même place où ça va toujours mal. 20 ouest entre route du président Kennedy et Taniata. Je t'avais d'arrêter de vous le dire. Là. C'est juste tout le temps de même. Fait que salutations si vous êtes pogné dans le seul trafic à peu près dans toute la grande région de Québec. Audrey Pinchot, salut.
Bon matin, Max.
Tu dois être bien heureuse de la météo qu'on annonce en fin de semaine.
Je t'avoue que je t'écoutais attentivement, oui, parce que ça aurait été plate de faire un déménagement à la pluie.
Puis en plus, c'est comme, tu sais, c'est ensoleillé, mais 23, peut-être un petit peu plus avec l'humidex, mais tu sais, c'est pas 34 avec 41 ressenti.
Puis tu sais, moi, je suis bien, là, parce que j'ai ma famille puis ma belle-famille qui veut pas que je bouge un doigt étant donné bébé, tu sais. fait que je me sens vraiment mal, mais d'un autre côté, je veux dire, c'est pas moi qui va souffrir d'une potentielle chaleur ou d'une potentielle pluie. Fait que je suis contente de savoir que mon monde va être relativement bien quand même, là. Puis c'est drôle parce que on commence le déménagement. Tu sais, moi, mon stock est à Saint-Raymond, mon chum est à Québec. Fait qu'on commence le déménagement demain soir où on rentre le stock, tu sais, puis on va dormir à Saint-Raymond en vue de notre passage au notaire vendredi matin puis de notre journée de déménagement. Fait que ce soir, c'est la dernière journée où on dort à l'appartement. Puis il faut savoir que mon chum a eu un appartement. Il est là depuis 10 ans.
Ah ouais.
C'est ouais. Lui là, c'est, tu sais, nous autres, on a donc bien déménagé. On est allé à l'école à l'extérieur, on a bougé, on s'attache comme pas trop. Tu sais, lui, il est vraiment sorti de chez ses parents, un appartement avec sa première blonde. Il l'a toujours gardé jusqu'à maintenant.
Tu dis on s'attache pas trop, mais moi, même si j'ai changé de place, tu sais, mettons de mon arrivée à Jonquière jusqu'à mon arrivée à Québec, puis l'achat de mon condo. Je pense que j'ai déménagé 5-6 fois en 5-6 ans. Là.
C'est mon 8e.
Mais moi, je m'attache pareil à toutes les places. Même ouais. Ma première... Non, en fait, c'est pas vrai. Ma deuxième place à Québec. Là où je suis resté mon premier été, où on m'avait dit « Hey, tu vas faire du remplacement d'été. » Mais après ça, on sait pas si on te garde. Hey, je vais dans une petite chambre. C'était
pas le fun. Mais c'est relié à des souvenirs. C'est relié à une époque.
Quand je suis parti de là, j'étais comme... Bon... C'est fini.
Mais moi, je viens broyarde. Je viens vraiment... Puis ce matin, c'est drôle, j'étais avec mon chum avant de partir pour le travail, puis on jasait de ça, puis je disais, « Crime, tu vas me trouver niaiseuse. Toi, ça fait 10 ans que t'es ici, puis t'as hâte de sortir, puis t'es pas si nostalgique. » Moi, je suis nostalgique de quelques mois à peine in and out dans cet appartement-là.
C'est ça, t'habitais même pas là pour vrai.
Non,
t'habitais
c'est pas chez nous.
À moitié là un peu.
Mais tu sais, notre premier « Je t'aime » a été dans cet appartement-là. Tu sais, c'est niaiseux, c'est tellement quétaine, mais c'est des affaires auxquelles je sais pas tu t'attaches, puis c'est ça. Autant que j'ai haï cet appart-là, parce que c'est petit, parce que mon chum se ramassait pas au début, parce que autant que là, je me dis...
Ouais, au début, hey, ça s'est amélioré?
Oui. Il essaye fort, là. Je peux pas dire que c'est propre, on est dans un bordel de boîte, là, tu sais. Mais je sais pas, il y a vraiment une fibre nostalgique qui m'envahit aujourd'hui de me dire comme, oh mon Dieu, c'est nos derniers moments-là à partir de demain soir. C'est une toute autre vie qui nous attend. Mais c'est full trippant, fait que de bonne humeur, mais nostalgique aujourd'hui.
J'ai peut-être une solution pour ta nostalgie.
Oh,
le,
ouais, hein?
Le neurofeedback.
Oh!
Non, ça, je pense pas que ça puisse t'aider, mais on va se démêler.
À Boulevard, il y a un moment où on prend nos balles.
88-971-1021. Savez-vous ce que c'est le neurofeedback? Je vais même entrer là-dedans, le biofeedback. Puis là, je vous dis ça, puis j'ai aucune idée ce que c'est moi-même, OK? Je suis tombée dans les dernières semaines sur des publicités, entre autres, mais via vraiment une amie que j'ai qui a tenté le processus chez Neuroperformant. C'est une technologie que je ne connaissais pas, mais qui peut aider pour plein de choses. Là, encore une fois, je parle à travers mon chapeau, puis on va décortiquer ça ensemble dans la prochaine demi-heure.
J'ai lu un peu aussi là-dessus
dans
les dernières heures, puis oui, Puis ça peut, semble-t-il, régler plein d'affaires, mais j'ai vraiment hâte de savoir comment ça marche.
Ça peut t'éviter de prendre la médication, entre autres, si, par exemple, t'as un TDA. Ça peut t'aider avec, de ce que je comprends, l'anxiété. Ça peut t'aider avec tout ce qui est dépression, trouble du sommeil, trouble alimentaire. J'ai même lu autisme sur leur site.
Nostalgie?
Non, ça rentrait pas là-dedans. Il va falloir que je m'organise à ce niveau-là. Mais choc post-traumatique, migraine, les TOC. Je veux dire, il y a plein d'affaires qu'on a l'impression des fois qu'on ne peut pas gérer ou qu'il y a juste une solution, puis c'est la thérapie avec un psychologue, un psychiatre ou la médication. Et là, de ce que je comprends, c'est une technologie qui va jouer directement sur le cerveau. Puis je trouve ça super intéressant parce que c'est une autre option. Fait qu'on reçoit ce matin Roc Thérien, qui est président de Neuroperformant, qui est une clinique spécialisée justement en neurofeedback, entre autres. On va essayer de démêler ce que ça mange en hiver, tout ça. Roc Thérien, bon matin.
Bon matin.
Je trouve ça super intéressant qu'on puisse jaser de ça aujourd'hui. Premièrement, là, j'ai nommé biofeedback et neurofeedback. C'est quoi la différence entre ces deux-là?
La grande famille, c'est le biofeedback. Le neurofeedback, c'est comme une spécialité à l'intérieur du biofeedback. Le biofeedback, ce que les gens connaissent beaucoup, c'est, exemple, la cohérence cardiaque ou les techniques de respiration, où on va apprendre à changer un peu notre physiologie là, avec des techniques de respiration et ainsi de suite. Alors que le neurofeedback, c'est vraiment, on va entraîner le cerveau. Fait que souvent, on fait une ligne, là, le cou en montant, quand on parle de la tête, on va parler du neurofeedback avec le cerveau. Puis quand on va parler du corps, ben à ce moment-là, le biofeedback va en faire partie, là.
Est-ce que tout ce que j'ai nommé, fait que je parlais de troubles alimentaires, Alzheimer, autisme, choc post-traumatique, TDA et compagnie, c'est toutes des choses sur lesquelles on peut venir jouer avec le neurofeedback?
Oui, parce que c'est toutes des choses qui ont un point en commun, c'est le cerveau. Puis souvent, ces problématiques-là, il y a une composante que c'est des régions du cerveau qui fonctionnent pas de manière optimale. Puis c'est ça, dans le fond, qui va occasionner en tout ou en partie, dans le fond, la problématique. Donc, je veux pas dire non plus que le neurofeedback, c'est la pilule magique qui va tout guérir ça, là. Non, faut mettre un bémol. Mais c'est très rare qu'on n'est pas capable d'améliorer ces conditions-là, juste en améliorant notre cerveau. Puis le neurofeedback, dans le fond, c'est une technologie qui existe depuis longtemps, là. Ça existe depuis au-dessus de 50 ans, qui nous permet de cibler des régions du cerveau, soit pour les stimuler davantage, donc pour qu'ils deviennent plus efficaces, ou des fois, c'est les calmer. Parce que des fois, quand les personnes sont anxieuses, ben c'est plutôt l'inverse, là. Les personnes qui disent qu'il y a un petit hamster dans la tête qui roule, ben oui, on est capable de le voir, de le mesurer, puis on est capable de l'entraîner à la base. Fait que c'est vraiment une approche qui est basée sur la neurologie puis sur l'électroencéphalographie quantitative. Fait qu'on peut changer l'activité du cerveau carrément.
Fait que comment ça fonctionne? Mettons que quelqu'un arrive puis veut se faire traiter pour telle affaire, s'assoit dans une chaise ou qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là?
La première étape, c'est qu'en neurofeedback, on travaille pas à l'aveuglette, là. Fait qu'il faut savoir c'est quoi le profil cérébral de la personne. Parce que une personne anxieuse, par exemple, peut avoir différents profils. Fait quand on fait l'électroencéphalogramme, là, on met je sais pas si vous avez vu un genre de casque avec des électrodes sur la tête, là. Donc, c'est le genre de casque qu'on utilise, puis ça, en fait, je vous rassure, ça donne jamais de choc électrique ou magnétique, quoi que ce soit. Ça fait juste de la lecture. Mais à partir de ces électrodes-là, ben, on est capable de lire l'activité du cerveau en trois dimensions. En fait, nos appareils, on lit 12 700 régions dans le cerveau, puis on les compare à la norme, fait qu'on est capable de voir ben, ce qui va bien dans le cerveau, on le voit, puis ce qui est hyperactif, on le voit, puis ce qui fonctionne au ralenti, on le voit aussi. Puis on voit les marqueurs, entre autres, là, au niveau de l'anxiété, ben, les gens vont dire, justement, je disais tantôt, là, un hamster qui roule, ben souvent, on va le voir, justement, au niveau du cerveau, ça va être souvent les amygdales, là, c'est des petites régions au centre du cerveau qui est le bouton panique. Ben oui, notre bouton panique va être hyperactif, donc il va déclencher le système nerveux central pour ressentir de l'anxiété ou du stress.
Puis à partir de ce moment-là, comment on vient jouer sur le cerveau? Donc, un coup que vous avez fait vraiment le scan, que vous savez où vous vous dirigez, tu as parlé justement de l'espèce de casque, là. Comment on fait le traitement?
Bien, le principe de base en neurofeedback, là, il est très, très simple. C'est, en psychologie, on appelle ça du conditionnement opérant. Moi, j'appelle ça le jeu de la récompense un peu, mais c'est que on récompense le cerveau quand il fait la bonne chose. Donc, c'est pareil comme quand on dresse un chien à donner la patte, là. Quand le chien fait la bonne affaire, le bon comportement, quand il donne la patte, je donne une récompense. Ben, puis je vais répéter, répéter. Ben, en neurofeedback, c'est la même chose. Si, exemple, je veux calmer le bouton panique chez une personne qui est anxieuse, le bouton panique, il est hyperactif. Puis je veux le calmer. Ben, je vais faire le même principe. Fait qu'avec les appareils, la personne vient en clinique, on remet encore le fameux casque sur la tête. On va lire en temps réel le bouton panique. Puis à toutes les fois que le cerveau va calmer le bouton panique, donc il fait le comportement qu'on veut, ben on donne une récompense. Puis la récompense, c'est que, ben, donne pas une croquette à la personne, là, mais devant la personne, il y a un écran, puis sur l'écran, on va faire jouer une vidéo que la personne aime. Puis la vidéo, ça peut être différentes choses. J'aime le hockey, on fait une vidéo de hockey ou des paysages ou des bandes dessinées pour les enfants, ça n'a pas d'importance. Fait que dès que le cerveau fait la bonne chose, calme le bouton panique, la vidéo va se mettre à jouer.
OK.
Puis pendant une séance en neurofeedback, on va donner cette récompense-là à peu près 2000 fois. Puis c'est fascinant parce que le cerveau, là-dedans, de 5-6 minutes, là, le cerveau comprend qu'il faut qu'il calme le bouton panique pour avoir sa récompense, puis il va se mettre par lui-même à calmer le bouton panique par la suite.
Puis, qui sont les gens qui donnent ces traitements-là? T'sais, c'est une question qui revient par texto. T'sais, je veux dire, quand on va voir un psy, on sait qu'il y a une formation, c'est un psychologue, c'est un psychiatre. Mais vous, chez Neuroperformant, le personnel, ils ont étudié en quoi?
En fait, il y a deux professionnels, dans le fond, là, qui est impliqué dans la démarche. Premièrement, bien, il y a un psychologue qui est formé en neurofeedback. Donc, il y a une certification en neurofeedback, il y a un cours associé à ça. Puis les psychologues qui rentrent chez nous, ils ont à peu près 200 heures de formation en neurofeedback. Donc, la personne qui prend le client en charge, c'est un psychologue, et la personne qui va faire l'enregistrement de l'électroencéphalogramme, qui va sortir les maps du cerveau, les déviations, bien, c'est des technologues en électrophysiologie médicale.
OK.
Et les entraînements vont être faits par les technologues ou souvent les infirmières auxiliaires dans nos cliniques.
Puis le taux de réussite, mettons, là, du neurofeedback, là, ça ressemble à quoi?
Ça dépend de la pathologie, ça dépend de la problématique, ça dépend de la personne. Donc, il y a quand même beaucoup de variables de ce côté-là. Avoir un chiffre exact, ça dépend. Si on parle, exemple, de niveau d'efficacité, quand on a des approches thérapeutiques, là, on les classe, en fait, c'est des organismes qui vont les classer par niveau d'efficacité, là, c'est de 1 à 5. Une approche thérapeutique qui a un niveau 1, c'est très faible comme niveau d'efficacité, puis 5, c'est le niveau le plus élevé. Bien, en date d'aujourd'hui, le neurofeedback, c'est classé un traitement de niveau 5 pour l'anxiété, pour la dépression majeure et pour le TDAH. C'est classé un traitement de niveau 4 pour les PTSD, insomnie, migraine également. Pour l'autisme, on voit des améliorations, oui, mais on ne vient pas traiter l'autisme. La même chose pour la démence, on peut améliorer un peu les fonctions cognitives, mais faut pas s'attendre à des miracles de ce côté-là, mais oui, on est capable d'aller chercher des améliorations.
Pour ce qui est, mettons, de l'anxiété où le taux de réussite est très bon, est-ce que des fois, ben, vous le voyez dès que, tu sais, on donnait l'image tantôt, là, où vous regardez le cerveau, comment c'est. Est-ce que des fois, on voit que, ah, tel cerveau, ça marchera pas, ou c'est après l'avoir essayé qu'à un moment donné, il faut faire, ouais, ben, pour cette personne-là, pour ce cerveau-là, malheureusement, ça n'a pas fonctionné?
Ben, c'est rare, mais une des choses qu'on va quand même souvent voir en clinique, une des choses qu'on est capable de bien distinguer, c'est, ben, je vais le mettre en deux catégories, là, un cerveau hyperactif, mais un cerveau qui fonctionne un peu au ralenti. Donc, il y a certaines personnes qui arrivent en clinique avec un diagnostic de trouble d'attention, puis typiquement, un trouble d'attention, ça va être souvent un cerveau qui fonctionne au ralenti. Quand on fait l'électroencéphalogramme, chez certaines personnes, on va se rendre compte que finalement, c'est l'inverse. C'est un cerveau qui est vraiment beaucoup trop hyperactif, qui va amener ces problématiques attentionnelles-là. Donc, à ce moment-là, ben, on va adresser la situation plutôt comme un profil anxieux où on a besoin de calmer le cerveau pour aller chercher les bénéfices du trouble d'attention. Donc, mais les personnes dans le fond, qui ne sont pas candidates au neurofeedback, il n'y en a pas vraiment parce que tout le monde peut améliorer quelque chose dans le cerveau. Puis moi, j'ai vu des milliers de cerveaux, là, puis je t'avoue, j'en ai jamais vu un parfait. Fait qu'on a toujours quelque chose qu'on peut améliorer chez une personne, mais si on voit un cerveau qui est relativement dans les normes, que la personne a des problématiques qui correspondent pas à ce qu'on voit, ben oui, ça pourrait arriver qu'on dit, ben, on n'est pas sûr de pouvoir t'aider, on va l'emmener vers d'autres professionnels ou vers d'autres thérapies à ce moment-là.
Tu nous disais tantôt, Rock, que le neurofeedback s'est classé, bon, intervention de niveau 5, donc le plus haut niveau d'efficacité reconnu par le guide scientifique. Comment ça, on n'en entend pas plus parler? Parce que là, je vois des textos rentrer. Est-ce que la science cautionne ça? Est-ce que c'est une vraie affaire? J'ai comme envie de t'entendre là-dessus.
Ouais. Ben, quand j'ai commencé en 2012, là, c'était pas très connu, autant du milieu médical que psychologique ou autre, et ça a énormément évolué. Aujourd'hui, le neurofeedback, c'est une technique qui est reconnue par l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, c'est une des techniques utilisées par les psychologues. Donc, oui, la reconnaissance est là. Donc, ça a pris un peu de temps, ça a pris beaucoup d'études, parce qu'il y a des milliers d'études scientifiques qui endossent le neurofeedback, mais ça prend un certain temps avant que ça soit reconnu. Donc, oui, ça l'est aujourd'hui. Puis, que ça soit connu, ben, on a encore du chemin à faire là, de ce côté-là.
Bien, assurément.
Et est-ce qu'il y a encore des avancées qui seraient possibles dans la même lignée là, que le neurofeedback? T'sais, tantôt, on parlait, par exemple, de l'autisme où, oui, il y a possibilité d'améliorer des choses, mais qu'on n'est pas encore rendu à un niveau aussi élevé que, par exemple, pour l'anxiété. Est-ce qu'on a atteint, entre guillemets, la limite de ce qu'on peut offrir, qui est déjà excellent pour certains dans certains aspects, ou on peut aller encore plus loin?
Ben, ça continue d'évoluer à vitesse grand V, hein, parce que c'est beaucoup les technologies d'analyse au niveau du cerveau. Donc, si exemple, je fais juste comparer les systèmes traditionnels de neurofeedback, donc ceux qui avaient une ou deux électrodes, ce qu'on utilisait là, au tout début, en fait, puis d'ailleurs, c'est encore utilisé aujourd'hui, mais avec ces types d'équipements-là, on avait à peu près 30% des personnes qui répondaient pas au neurofeedback parce que on pouvait pas lire le cerveau en trois dimensions, on pouvait juste lire à la surface. Et maintenant, avec les appareils comme on a chez nous à 19 électrodes, on lit 12 700 régions, ben notre taux de non-réponse est passé d'à peu près 30% à peu près à 5%. Fait que ça, c'est une grande, grande amélioration, mais s'il y a encore des personnes qui répondent pas au neurofeedback, c'est rare, mais oui, ça arrive. Puis l'évolution au niveau de l'électroencéphalographie puis de l'imagerie médicale, ben il y a beaucoup plus de paramètres maintenant qu'on est capable de mesurer. Puis il y a beaucoup d'études pour dire ben maintenant ben ceux qui répondent pas, ah ben oui, c'est à cause de tel autre marqueur qu'on est maintenant capable de mesurer et d'entraîner. Fait que oui, il y a de l'évolution certainement de ce côté-là. Le nombre de séances qu'on avait besoin pour avoir des résultats avant avec les systèmes traditionnels, c'est à peu près deux fois plus que ce qu'on a présentement. Donc, c'est plus rapide, c'est plus efficace, le nombre de non-répondants s'améliore. C'est pas parfait, c'est comme n'importe quelle approche thérapeutique, mais ça avance rapidement de ce côté-là.
On a abordé la démence tantôt très très brièvement. On en est où par rapport à ça? Puis est-ce que, tu sais, on parlait d'avancer, est-ce que ce serait possible d'y aller en prévention dans le cas de maladies comme la démence, de, bon, quelqu'un dans sa génétique aurait des chances, on peut prévenir puis de faire travailler le cerveau de façon à ce que la démence se développe moins rapidement?
Au niveau de la démence, faut être prudent parce que il y a quand même un certain nombre d'études qui ont montré que le neurofeedback va même permettre des personnes qui sont en perte cognitive, on entraîne le cerveau, ils vont regagner des fonctions cognitives avec le neurofeedback. Mais si on arrête le neurofeedback par après, ben c'est sûr que on retourne dans une pente descendante. Fait que, mais on est quand même au début de ce processus-là au niveau des études. Il y en a pas énormément, mais les études qui sortent sont quand même très prometteuse. Puis c'est quand même fascinant. C'est un test qu'on appelle le test MoCA, qui est un test pour mesurer et quantifier les pertes cognitives. Puis dans ce test-là, on fait une image un peu comme une horloge. On demande à la personne de décrire, écris-moi midi et 10 sur l'horloge. Puis on voyait le avant puis après le neurofeedback. C'est quand même assez flagrant les améliorations qu'on peut aller chercher de ce côté-là visuellement. Mais faut être prudent. Là. C'est pas un traitement pour la démence, mais à la base, moi, je crois que quand on est capable d'entraîner le cerveau, ben, on est capable de lui redonner des capacités. Puis s'il fonctionne mieux, ben oui, ça peut aider plusieurs problématiques, dont la démence. Mais il faut être réaliste là, au niveau des attentes.
Mais c'est ça. Mais je pense que c'est une belle alternative, comme on a déjà parlé, par exemple, de l'hypnose dans une approche thérapeutique. T'sais, je pense que c'est des options que les gens peuvent explorer. Ce processus-là, on peut le faire à partir de quel âge? C'est-tu autant enfant qu'adulte?
Autant enfant qu'adulte, non, c'est qu'on commence à partir de l'âge de 7 ans.
Okay.
Parce que à partir de 7 ans, ça se déroule bien, les enfants, ils vont bien maîtriser le casque sur la tête. Puis souvent, ça a l'air drôle à dire, mais les enfants, ils aiment ça faire du neurofeedback parce que pour eux, une séance, c'est qu'ils vont s'asseoir dans un fauteuil puis ils vont écouter leur bande dessinée pendant 50 minutes. Fait que pour eux,
Ouais.
les enfants, ils aiment ça, fait qu'ils sont pas conscients que le cerveau travaille. Fait que les enfants, souvent, c'est une clientèle qui va être très réceptive au neurofeedback, là.
Puis la différence, mettons, entre le neurofeedback puis la médication. Tu sais, je pense qu'on a beaucoup abordé le TDA, TDAH. Puis tu sais, au Québec, on estime c'est quoi, entre 5 et 8 % des enfants puis environ 4 % des adultes qui présentent un TDAH diagnostiqué. Je me demande quand même la différence entre quand tu prends justement un médicament pour ça versus quand tu vas utiliser une technique alternative comme le neurofeedback.
C'est deux approches, puis au côté médication, nous, on se prononce jamais. Là, on n'est pas médecin, fait qu'à ce moment-là, bon, on se prononce pas, puis le médecin va faire sa prescription à ce niveau-là. Puis à la base, moi, je crois que si un enfant est en échec scolaire ou il en a besoin, puis que la médication va l'aider à réussir, moi, je suis pour ça, dans le sens qu'à la base, on veut que l'enfant réussisse puis qu'il aille bien. Mais on est conscient aussi que c'est pas tous les enfants qui vont bien répondre à la médication. Ben, je parle d'enfants et ou adultes. Et le neurofeedback, ben, c'est un peu comme on va cibler le problème à la base au niveau du cerveau. Souvent, c'est des régions en frontal qui vont fonctionner au ralenti. Puis, à mesure qu'on va les restimuler, qu'on va leur redonner de l'énergie ou de la puissance en neurofeedback, ben, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que la médication devient de moins en moins nécessaire. Puis, il y en a beaucoup même qui vont l'éliminer complètement. Mais encore une fois, ça, c'est toujours avec la discussion avec le médecin. Fait que c'est deux alternatives, dans le fond, pour le trouble d'attention. Puis, ben, chaque personne peut voir quelle est l'approche qui lui convient le mieux, là.
Avant de vous laisser partir, Monsieur Terrien, on nous demande pour l'épilepsie, est-ce que ça a quelque chose de bénéfique ou ça traite pas ça, là, ou on n'améliore pas cette condition-là?
Ben, c'est drôle parce que la première pathologie qui a été traitée avec le neurofeedback en 1974, ça fait longtemps, là, c'était l'épilepsie. C'est comme ça qu'on a trouvé justement que le neurofeedback pouvait avoir des bienfaits. Fait que oui, c'est une pathologie dans le fond, puis je pense même que c'est classé un traitement de niveau 4 pour l'épilepsie. C'est une condition qui est plus complexe parce que là, faut travailler avec le médecin, le neurologue. Fait que c'est une clientèle qu'on a moins dans les cliniques parce qu'on travaille justement avec le côté médical en même temps. Mais oui, le neurofeedback peut très bien fonctionner pour l'épilepsie. Mais il faut en parler à son médecin d'abord.
Je termine avec la question des coûts et des assurances. C'est quelque chose qui est revenu aussi par texto de notre côté. Comment ça fonctionne?
Ben, au niveau des coûts, là, c'est des psychologues qui prennent le client en charge. Fait qu'à ce moment-là, c'est des reçus en psychologie qui sont émis. Puis au niveau des coûts, ben, il y a une partie, il y a un coût pour l'évaluation, puis ensuite de ça, il y a une partie des coûts qui est pour les entraînements en neurofeedback. Donc, les coûts pour les entraînements, ça ressemble au même coût sensiblement que la psychothérapie, dans le même ordre de grandeur de coûts. On parle de 170 $ de la séance avec un reçu en psychologie. Puis pour l'évaluation, ben l'évaluation, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a une entrevue avec un psychologue, il y a l'enregistrement de l'électroencéphalogramme, il y a l'analyse du EEG, il y a l'interprétation, la rédaction de rapport, puis une autre rencontre avec le psychologue après pour discuter des résultats. Et les coûts pour l'évaluation, c'est 750 $. Puis une très bonne partie de ça qui va passer en psychologie. La partie qui passe pas en psychologie, c'est la partie de l'électroencéphalographie, là, qui
OK.
passe dans un autre volet au niveau des assurances.
Fait qu'il y a une partie qui passe sur les assurances. C'est bon à savoir. Je me posais la question parce que des fois, ces traitements alternatifs-là, c'est pas encore assez reconnu pour être traité, mais de savoir que ça passe dans le psy, c'est une bonne chose. Roch Thérien, président de Neuroperformant, c'est la compagnie, si jamais vous voulez aller vous informer sur le neurofeedback. Je trouve ça super intéressant de savoir qu'il y a des options. Fait que merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.
Bye-bye. Ouais, super intéressant.
Pour vrai, je trouve ça fascinant parce que c'est vrai que c'est logique d'une certaine façon, puis c'est d'entraîner ton cerveau comme tu entraînes ton corps, finalement, là, d'une certaine manière. Puis je trouve que c'est une alternative qui est le fun parce que on est dans une société actuellement où on a de la misère à consulter des psychologues, psychiatres, TS et compagnie. Fait que de savoir que c'est une autre porte d'entrée, ben c'est le fun. Fait que neurofeedback, c'est de ça qu'on parlait aujourd'hui. On va tout sortir ça en passant sur YouTube et blvd.fm. Là, je vois des gens qui se sont joints récemment à la conversation, vous aurez les infos.
Audrey, merci beaucoup. On t'écoute dans le retour dès 14h.
Salut!
Mathias Turcotte s'en vient pour les nouvelles. Vous écoutez le Point de Max, 11h27.